Bonne conférence à tous.
J'espère pas parler trop longtemps, sauf si je me lâche complètement, mais normalement je vais essayer de faire attention. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'on puisse discuter un peu ensemble. Si vous avez reçu le tract ou si les amis qui vous ont invité ne vous ont pas menti, vous savez que le thème exact, c'est l'amour éternel au regard de l'expérience humaine et de la Bible. On est les groupes bibliques universitaires, donc on va essayer de s'intéresser aussi à savoir qu'est-ce que la Bible a à dire sur cette question de l'amour qui dure toujours. Alors, je t'aimerai toujours, c'est une phrase qu'on connaît, hein, une phrase qu'un homme dit à une femme, une phrase qu'une femme dit à un homme, au moins dans les films, une phrase que des parents peuvent dire à leurs enfants, qu'on peut se dire entre amis. En fait, une phrase qu'on peut entendre dans tous les contextes où on peut s'aimer. Et si on doit donner une définition de l'amour sans rentrer dans des grands débats philosophiques, parce qu'autant vous dire que les définitions de l'amour, chacun en a une propre, mais si on va essayer de faire un truc assez commun à ce que tout le monde croit, on peut dire que c'est un sentiment d'attachement, d'affection envers une personne qui nous pousse à vouloir être proche d'elle. En fait, il y a aussi de l'amour pour le foot et tout, mais là, on va se concentrer sur les relations humaines aujourd'hui. C'est un sentiment d'affection, d'attachement pour une personne qui fait qu'on va chercher la proximité avec elle. L'amour, c'est cette chose qui porte l'homme un peu hors de lui-même, qui fait que tout d'un coup, il existe, on n'existe pas non plus que seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres personnes, les personnes qu'on aime. Soit on va donc parler d'amour. Et pour l'expérience humaine, je vais surtout, pas seulement, mais surtout parler de, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, l'amour amoureux ou l'amour du couple. Parce qu'en fait, il me semble symptomatique pour deux raisons. La première, c'est que contrairement à l'amour filial, l'amour qu'on peut avoir pour notre famille, on choisit la personne avec qui on va faire notre vie. Vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, vous ne les avez pas choisis. Ils sont là, à côté de vous, et vous devez les aimer. Vous essayez plus ou moins. Et puis, contrairement à l'amitié, l'amour amoureux, c'est exclusif. En tout cas, une personne à la fois. Normalement, on n'est pas amoureux de 10 personnes en même temps, on n'est pas en relation de couple avec 10 personnes en même temps, alors qu'on peut être ami avec un grand groupe de personnes. A priori, la relation de couple, c'est juste deux personnes l'une avec l'autre. Et c'est pour ça que je pense qu'il est un petit peu particulier, mais je ne fais pas du tout, je pense que c'est important de le dire, je ne fais pas du tout de l'amour dans le couple, l'amour par excellence, ou l'amour le plus grand, le plus important, d'une part parce que je pense qu'on sous-estime énormément l'amitié, comme amour qui peut être donné et reçu et qui peut construire une personne, et d'autre part parce qu'il paraît qu'on ne sait pas ce qu'est aimer avant d'avoir un enfant. C'est ce que j'entends beaucoup de personnes dire ça. Alors moi-même, je n'ai pas d'enfant, mais pour avoir vu ma sœur devenir maman cette année, je suis assez encline à croire qu'en effet, quand on a un enfant, on découvre quelque chose d'autre sur ce qu'est l'amour et quelque chose peut-être de plus grand. Mais s'il n'est pas l'amour par excellence, l'amour-passion, on va l'appeler comme ça, l'amour-passion, à mon avis, c'est le plus symptomatique de notre époque. Il y a un sociologue américain, britannique, Anthony Giddens, qui est un spécialiste de la modernité, qui a écrit un livre sur la modernité, et il dit que pour lui, si on doit résumer quel est le concept qui cristallise toute la modernité en Europe, parle de l'Europe, c'est ce concept d'amour-passion. C'est quelque chose qui existait peu avant et qui est devenu tout d'un coup la raison d'être des gens. C'est cette génération qui a inventé le fait qu'on se mariait par amour. Avant, on ne se mariait pas par amour, hein. On se mariait pour des raisons sociales. Les gens ne se mariaient pas parce qu'ils étaient amoureux, ils se mariaient parce qu'il fallait continuer l'héritage, etc. Mais le XXe siècle a inventé le mariage d'amour. Et lui, il montre en fait que ce n'est pas juste la question du mariage, c'est toute la société qui est reconstruite autour de ce concept phare qui est l'amour-passion. Et c'est pour ça que je pense que c'est le plus symptomatique de notre époque. Vous le savez, hein, vous entendez autour de vous que quelqu'un qui n'a jamais vécu cet amour-là, ça ne vaut pas la peine de vivre. Hein. La vie ne vaut d'être vécue que si une fois on a connu le vrai amour, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et c'est pour ça que je vais plus parler de celui-là, mais je ferai quand même allusion au reste de notre paysage affectif. Et par définition, l'amour se veut éternel. On en a au moins l'espoir. On en a au moins l'espoir qu'il va durer. On entend souvent que le véritable amour est un amour qui dure. Si ça ne dure pas, c'est que ce n'était pas le véritable amour. Le véritable amour, c'est celui qui dure. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est l'amour qui est la source de notre motivation. C'est l'amour qui donne un sens à nos vies. Luc Ferry, dans son livre là, que j'ai lu, La Révolution de l'amour, dit que pour lui, l'amour, c'est le nouveau sacré. dans le sens où ça réenchante notre vie, ça donne du sens à notre vie, et dans le sens aussi que c'est maintenant la chose pour laquelle on est prêt à se sacrifier. Avant, les gens se sacrifiaient, étaient prêts à se sacrifier pour des idéaux, pour la patrie, etc. Maintenant, ça c'est fini. Par contre, on est prêt à se sacrifier pour les gens qu'on aime. Et en ça, pour lui, l'amour, c'est le nouveau sacré. Et puis Hegel, le philosophe, disait aussi que pour lui, l'amour avait un pouvoir très très fort de restauration. On est prêt à pardonner les personnes qu'on aime, on est prêt à se réconcilier avec eux, on cherche à se dépasser pour eux, on prend des risques, on se remet en question pour ne pas les perdre. Donc en gros, c'est vraiment quelque chose qui nous met en mouvement et qui nous permet de progresser, d'être des personnes meilleures, d'avancer dans la vie, quoi. Mais la question, c'est évidemment, et c'est la question de ce soir, est-ce qu'un amour qui dure toujours, bon, soyons ambitieux, hein, pas juste 5 ans, 10 ans, mais un amour qui dure jusqu'à ce que la mort nous sépare, est-ce que c'est possible ? Les chiffres de l'INSEE, donc l'Institut National de Statistique, dit que 60% des mariages se terminent en divorce, et c'est assez évident. Tous les observateurs le disent que s'il n'y avait pas les enfants, le chiffre grossirait encore. Ce qui fait qu'on n'est pas... j'avais entendu un mec de l'INSEE qui disait que s'il n'y avait pas les enfants, on arriverait à des taux de 80%, quelque chose comme ça. Qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment plus, mais qui restent ensemble pas à cause des enfants. Que donc le chiffre grossirait encore s'il n'y avait pas les enfants. Et qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas le mariage qui est en cause, parce que les études ont aussi montré que pour ceux qui sont en concubinage, les chiffres sont même plus grands. On se sépare plus et on se sépare plus vite. Donc le couple, qu'il soit marié ou non, le couple, dans une très forte proportion, finit par se séparer. Et les sociologues ont bien montré, c'est ce que je vous disais avant, qu'en fait, il y a de plus en plus de séparations depuis qu'on se marie par amour. Quand on ne se mariait pas par amour, et ben on ne divorçait pas. C'est prétexte qu'il n'y avait plus d'amour. Mais c'est depuis qu'on se marie par amour, qu'on se met en couple par amour, pour juste aller plus large que le mariage, c'est depuis qu'on se met en couple par amour qu'il y a de plus en plus de séparations. Parce que par définition, l'amour-passion est fragile et instable. La passion, c'est quelque chose qui passe. Et qui des fois revient et qui des fois revient pas. C'est là que je dois citer Aude Semeria. Alors, Aude Semeria, je ne sais pas si c'est un pseudo ou pas, mais c'est un expert psycho sur le site auféminin.com, véridique. Et donc, c'est un site, hein, les gens posent des questions, et donc là, il y a une dame qui pose une question. Est-ce que vous croyez en l'amour éternel ? Et donc, cet expert psycho, je ne sais pas quel diplôme a, donne la réponse suivante, c'était son titre d'article. L'amour éternel, ça existe, mais ça ne dure pas longtemps, c'est mon point de vue. Voilà. Bon, pour ne pas être trop sarcastique avec ce pauvre Eude, son idée, c'est de dire qu'au bout d'un moment, l'amour-passion, au mieux, au bout d'un moment, l'amour-passion se transforme en une espèce d'affection-tendresse, quand c'est pas de la haine ou de l'indifférence, mais au mieux, l'amour-passion va se transformer fatalement en une espèce d'affection-tendresse, et que obligatoirement, les gens vont avoir envie ou besoin de nouveau tomber amoureux, de nouveau connaître cette petite excitation des débuts et tout, qu'on ne connaît plus avec la personne qu'on connaît par cœur et qui ne nous fait plus du tout fantasmer au bout d'un moment. Et donc forcément, on va aller voir ailleurs. Donc pour lui, tout amour est éternel parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans la relation, on y croit, mais par définition, cet amour éternel ne dure pas longtemps. Parce qu'on a toujours envie d'un peu plus d'éternité, quoi. Comme a dit Frédéric Becbédé, l'amour dure 3 ans. Il a fait des statistiques et il a montré qu'en fait, cet amour-passion pouvait durer 3 ans. Au bout de 3 ans, soit on est indifférent, soit on se déteste, soit on tombe au mieux dans une affection, tendresse, complicité. Et il y a des gens qui ne se satisfont pas de ça, qui ne se satisfont pas de ça, et qui veulent rechercher de nouveau l'excitation du début, la passion, etc. Mais est-ce obligatoire que l'amour dure 3 ans ? Est-ce qu'on doit juste accepter ce constat et nous satisfaire d'une vie où on va devoir passer de partenaire en partenaire, en espérant que les période entre partenaires soit pas trop longue, pour essayer de tout le temps connaître cette situation où on est dans l'amour et où on se sent bien, etc. Les philosophes ont réfléchi à cette question, vous vous doutez bien. Et à mon avis, la réponse la plus intéressante, c'est celle de André Comte-Sponville, philosophe français actuel. Lui, il dit ça peut durer. L'amour peut durer, mais il faut qu'à un moment donné, dans le couple, on passe de l'amour passion à l'amour action. De l'amour subi à l'amour choisi. À un moment donné, on décide librement d'aimer une personne. Et un autre philosophe qui, lui, par contre, est mort maintenant, Denis de Rougemont, il pense que, lui, justement, la passion se distingue de l'amour, ou plutôt l'amour se distingue de la passion, à cause de la liberté qu'il contient. Il y a de la liberté dans l'amour, il n'y a pas de liberté dans la passion. La passion est subie par l'individu, ce n'est pas le cas de l'amour. Pour lui, on peut vraiment opposer, alors lui, il est très noir et blanc, hein, on oppose passion et amour, Dans la passion, la personne, elle est esclave, ça lui tombe dessus, la personne, elle ne l'a même pas choisie, elle est là, elle est belle, hop, elle est passive, alors que dans l'amour, c'est un choix et c'est une volonté. Je ne pense pas que moi, j'opposerais les deux de manière aussi brutale, d'une part parce que je suis une grande romantique, faut pas non plus tout péter, mais aussi parce que je pense que le passage de l'un à l'autre est beaucoup plus facile que ce qu'on a l'air de croire, et le côté de l'amour aveugle, où en fait, mon cerveau saute quand je rencontre une personne, c'est pas la majorité des cas. Même les gens qui te parlent de coup de foudre, à un moment donné, ils vont décider s'ils estiment que cette personne va leur apporter du bonheur ou si cette personne va leur apporter du malheur. Et même si le début, ça va être une espèce de passion, il y a forcément un moment donné où tu décides d'être en relation avec la personne, avec plus de concepts. Alors j'imagine bien qu'il y a des gens qui le subissent entièrement, mais j'ai quand même pas l'impression que ce soit vraiment la norme. Au bout d'un moment, on décide d'être avec cette personne-là. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans l'idée de Comte-Sponville et de Rougemont, c'est cette idée que pour que l'amour dure, à un moment donné, il faut qu'il y ait la volonté. Il faut qu'il y ait la volonté des deux partenaires que l'amour dure. Il faut que ça se concrétise dans une parole, dans un espèce d'engagement. En fait, pour que l'amour dure, il doit promettre. Pas des paroles en l'air, hein, pas « mais oui, je t'aimerai toujours ». Hein. Un vrai engagement où la personne s'engage à faire tous ses efforts. On a mis des stocks disponibles, on en reparlera, mais à faire tous ses efforts pour que la relation continue. La seule chose qui peut vraiment nous installer dans l'amour, la seule chose qui peut faire qu'on s'assoit, qu'on n'est pas inquiet tout le temps, c'est quand les gens peuvent se promettre l'un à l'autre qu'ils s'aimeront, quand les parents disent à leurs enfants « je t'aimerai » et aussi demain et après-demain, etc. Quand les conjoints peuvent se dire « je décide de t'aimer et je te promets que ça va durer », etc., etc. Ou quand entre amis, on peut se dire que notre amour, notre amitié l'un pour l'autre ne va pas sauter comme ça du jour au lendemain parce qu'un jour tu viens pas à mon anniversaire ou je sais quelle stupidité, mais que c'est quelque chose de construit sur du stable et on s'y engage. Je sais que ça peut paraître complètement hallucinant dans une société où les gens se mettent en couple sans même se dire « je t'aime », de dire que pour qu'un couple soit véritablement un couple au sens stable du terme, il faut que non seulement ils se disent « je t'aime », mais que même ils se disent « et je t'aimerai aussi demain, et le mois suivant, et l'année suivante ». Je sais que ça peut paraître hallucinant, et c'est hallucinant parce que la vraie question, c'est de savoir, mais qui peut tenir cette promesse? Qui peut tenir cette promesse qu'en fait, on va encore aimer demain, et le mois suivant, et l'année suivante, etc., etc. Moi, je peux pas. Je peux en avoir l'envie, mais je me connais, et je sais très bien qu'il y a des chances que finalement, au bout d'un moment, la vie aidant, la personne me paraisse beaucoup moins aimable que ce qu'elle était au début. En fait, l'amour ne dure pas, finalement, parce que personne n'est infaillible. Sans parler des autres, qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes, qui peuvent faire preuve d'une superbe indifférence ou qui tout simplement nous blessent, si on regarde à nous-mêmes et si je regarde à moi-même, je me rends compte que naturellement, je veux mon confort avant toute chose, et même avant celui de l'être aimé. Même si j'aime la personne, je vais quand même estimer que mon bonheur est plus important que le sien. Et d'ailleurs, j'aime cette personne parce qu'elle me fait du bien, parce qu'elle contribue à mon bonheur. Sauf que pour qu'une relation marche, il faut qu'à un moment donné, la personne en face soit plus importante que nous. Et même si on le sait théoriquement, le vivre en pratique, c'est hyper compliqué. Parce que de manière naturelle, on se préfère toujours à tout le monde. On est tous programmés pour ça. Hein. Toute personne qui fait un peu d'introspection va se rendre compte que naturellement, si elle doit choisir la personne qu'elle préfère sur toute la Terre, c'est elle. En fait, ouais, faire passer l'autre avant soi-même, c'est un effort qui n'est pas du tout naturel, ça demande un effort permanent sur soi. C'est pas un effort qui est impossible, c'est pas du tout impossible, heureusement, sinon il y aurait strictement rien qui fonctionnerait dans notre vie. Mais c'est un effort qui aura forcément ses échecs, et surtout qui va nous demander une énergie folle. Ça va nous demander une énergie folle de toujours être en train d'essayer d'être à la hauteur, de pardonner, etc., etc. C'est impossible de tenir la barre de l'amour tout le temps. C'est impossible d'être toujours au taquet, même si on choisit. Parce que comme on est des êtres imparfaits et que la personne qu'on aime en face, que ce soit dans le cadre du couple, de la famille ou de l'amitié, est une personne aussi imparfaite, il y aura toujours un moment où interviendra la déception et finalement le manque affectif. Nietzsche disait, je ne suis pas une grande fan de Nietzsche, donc je ne cite pas souvent, mais là j'avoue quand même. Il a dit, qui promet à l'autre de l'aimer toujours ou de lui être toujours fidèle, promet quelque chose qui n'est pas en son pouvoir. Et je pense qu'il a raison. On promet quelque chose qui n'est pas en notre pouvoir. En fait, on dit ce qu'on aimerait, on dit un vœu, mais finalement, c'est pas du tout en notre pouvoir de dire « mais si t'inquiète pas, dans 30 ans, je t'aimerai toujours ». En fait, pour que ça marche, si je regarde mon cas, pour que ça marche, pour que je puisse dire, ok, là, je suis dans une relation qui va durer jusqu'à ma mort, il faudrait que mon partenaire soit parfait. Il faudrait qu'il m'émerveille toujours, pour que je puisse tous les matins retomber amoureuse de lui. Il faudrait qu'il se plante jamais, qu'il fasse jamais d'erreur. Il faudrait qu'il me pardonne toujours, puisque moi je vais faire des erreurs, n'étant pas parfaite. Il faudrait qu'il m'aime toujours avec la même intensité. Et là, ça pourrait marcher. Mais il ne faut pas qu'il se lasse du fait que moi je ne suis pas parfaite, du fait que moi je me plante, du fait que moi j'arrive pas à l'aimer toujours autant. Là, ça pourrait marcher. Et c'est là que la Bible propose, à mon avis, une vision pertinente, en parlant justement de comment l'amour de Dieu vient éclairer l'amour qu'il y a entre les hommes. Dieu est amour, vous avez sans doute déjà entendu ça quelque part. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que les chrétiens le savent. Les chrétiens le disent, mais d'où est-ce qu'ils le savent? La Bible entière a été écrite pour nous parler de ça, mais on ne va pas lire toute la Bible ce soir. Fatalement, vous en aurez marre. Mais il y a un passage dans les lettres. Les premiers chrétiens s'envoyaient des lettres pour s'encourager à tenir bon dans tout ce que le Christ leur avait enseigné. Et dans une de ces lettres, un des personnes qui avait vécu avec Jésus, qui a vu tout ce qu'il a fait sur terre et tout, qui s'appelait Jean, il écrit à un groupe de chrétiens, on ne sait pas où est-ce qu'ils étaient, et il leur dit, mes chers amis, à mon avis il fait exprès de mettre amis, de ne pas les appeler mes frères, etc. Il met le mot amour déjà dans la façon dont il les appelle. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. L'idée là de Jean, celui qui écrit, c'est qu'il dit que c'est par son Fils, Dieu lui-même devenu homme, que Dieu nous a montré son amour. Et en lisant la Bible, en regardant notamment la partie où on raconte la vie de Jésus, on voit un peu c'est quoi cet amour. C'est quoi cet amour concrètement que Jésus a montré. Et je pense qu'on peut relever deux caractéristiques principales si on lit les évangiles et qu'on voit un peu comment est-ce que Jésus a aimé les hommes, comment est-ce que Dieu a aimé les hommes. D'abord, c'est un amour inconditionnel. Et c'est là que ça nous renvoie à la façon dont nous, on aime les gens. En fait, naturellement, notre amour est conditionnel. Je t'aime parce que tu es beau. Ne prends pas de poids. Je t'aime parce que je me sens bien avec toi. Débrouille-toi pour me valoriser tous les jours. Parce que c'est pour ça que je t'aime. Je t'aime parce que tu, intellectuellement, ça, tu me pousses vers le haut. Donc, tu n'as pas intérêt tout d'un coup à trouver que... à devenir bête. Je t'aime parce que tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, s'il te plaît, ne décide pas de devenir acteur demain. Sauf si ça marche très bien pour toi tout de suite. En fait, si on doit donner un parallèle dans l'histoire humaine, l'amour de Dieu pour les hommes, ça ressemblerait plus à l'amour des parents pour leurs enfants. Encore que, trop souvent, malheureusement, l'amour des parents pour leurs enfants, sans être totalement conditionnel, et en tout cas conditionné. Je t'aime ou je suis fière de toi si tu fais les études que j'aimerais que tu fasses. Si tu crois les choses que j'aimerais que tu crois, si tu réponds à mes attentes, si tu es la personne que j'aurais aimé être et que j'ai jamais réussi à être. Mais le vrai amour inconditionnel, celui de Dieu, c'est un amour qui ne cherche aucun bénéfice pour soi. Et en fait, c'est normal de la part de Dieu, parce qu'il n'a rien à gagner, il a déjà tout. Donc l'amour qu'il a pour les hommes est obligatoirement totalement gratuit, parce qu'il n'y a rien qui lui manque. Donc forcément, il va aimer en cherchant strictement aucun bénéfice pour lui. Ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est que c'est un amour sacrificiel. Un amour qui se sacrifie, et même qui se sacrifie pour des gens qui ne l'aiment pas. C'est assez flagrant avec l'histoire de Jésus. Dieu s'incarne en Jésus avec un projet. On en parlera un peu, mais c'est le projet de se sacrifier pour l'humanité. Et il se trouve un groupe de potes, là, les 12 disciples, et ça fonctionne bien avec eux. Et c'est le groupe de gens dont il est le plus proche. Donc quelque part, j'imagine que quand il pensait au fait de sacrifier pour les hommes, il devait penser d'abord à ces gens-là, puisque c'était ceux avec qui il passait tout son temps. Et finalement, au moment ultime où il doit aller jusqu'au bout, où il doit accepter un procès injuste sans du tout chercher à se défendre, parce que le but c'est qu'il meure, ou qu'il doit accepter d'aller jusqu'au sacrifice, Ses disciples, tout le monde se barre, tout le monde l'abandonne, et le plus fidèle, le warrior de l'équipe, même le renie et dit qu'il ne le connaît pas. Et malgré le fait qu'au moment même où il allait mourir, tout le monde se barre, et il se rend compte qu'en fait personne ne l'aime, qu'il est tout seul, et que ses soi-disant amis avec qui il a passé du temps en fait ne l'aiment pas, et bien il décide quand même d'aller jusqu'au bout, et il décide quand même de les aimer jusqu'au bout. C'est ça, un amour sacrificiel. Mais là, normalement, vous me dites, ok, un sacrifice, ça vaut le coup s'il y a un danger de mort, sinon c'est ridicule. Si je prends un pistolet et que je me tire une balle en disant je me sacrifie pour vous, vous allez sortir de là en disant elle est mignonne, elle est un peu illuminée quand même. Par contre, s'il y a un mec qui rentre avec un pistolet, qui vous met en joue et que dans un élan d'héroïsme, je me mets entre vous et la balle et que je prends la balle, là ça aura du sens, ce sera un vrai sacrifice, ce ne sera pas juste un truc un peu ridicule. Et du coup, la question, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de sacrifice pour Jésus. Il est où le danger, là? Où est-ce qu'il est le danger? Et c'est là, si on reprend la suite de la lettre de Jean, là, que je vous lisais tout à l'heure, la phrase d'après, c'est « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. » Phrase technique. Apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. On a ici un Dieu qui à la fois aime et à la fois est en colère. C'est un peu étonnant. Il est en colère, le texte dit qu'il est en colère parce que nous péchons. C'est un terme technique du christianisme pour parler du fait qu'on ignore Dieu. On vit notre vie comme si on était le centre du monde, alors qu'en fait le centre du monde c'est lui. On décide de faire comme s'il n'était pas là, alors qu'il est là. C'est ça le péché. Et Dieu est en colère parce qu'on le laisse de côté. C'est quand même lui le taulier, c'est quand même lui qui a créé la terre. On n'est pas censé l'ignorer et faire comme s'il n'était pas là. Et ça, ça mérite sa colère. Donc d'un côté, il est en colère, mais d'un autre côté, parce qu'il l'aime, il veut nous épargner sa colère. Et c'est là où ce qu'a fait Jésus prend du sens. Il prend la punition à notre place et ainsi nous permet une vie réconciliée avec Dieu, avec le Créateur, et donc s'il est le Créateur de toutes choses, en me réconciliant avec lui, je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec les autres, je me réconcilie avec le monde en général, puisque c'est lui, le maître du monde. Jésus nous a épargné le danger de subir la colère de Dieu parce qu'on vit comme s'il n'était pas là. Alors merci. C'est sympa de savoir qu'on est aimé par Dieu, mais finalement, qu'est-ce que ça change par rapport à notre question du début, de savoir comment est-ce qu'on fait pour vivre des relations d'amour humaines qui durent? Parce que qu'avec Dieu, ça dure éternellement, puisque lui, il est parfait, ben, on peut le comprendre, hein, que du coup, son amour est donné, et on a beau moins l'aimer, on a beau douter de lui, on a beau des fois être en colère même contre lui quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, lui continue à nous aimer. Mais qu'est-ce que ça change par rapport au fait qu'on essaie d'apprendre à s'aimer les uns les autres, d'apprendre à s'aimer dans le couple, dans la famille, dans les amis? En fait, ça change tout. Le fait que Dieu ait décidé de s'incarner dans un homme, de devenir un homme et de partager notre vie, ça change tout. Parce que Jésus donne trois choses. La première chose, c'est que c'est lui le premier qui fait le lien entre le fait d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible juive, la première partie de la Bible, vous avez les deux choses qui sont demandées dans la loi. On vous demande d'aimer Dieu de tout votre cœur et on vous demande d'aimer votre prochain comme vous-même. Aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas une invention de Jésus, hein, contrairement à ce qu'on croit. C'était déjà dans la Torah juive. Mais les deux étaient à deux endroits totalement différents. Et Jésus, c'est le premier qui met les deux ensemble, comme étant les revers d'une même médaille. C'est un peu l'idée que les amis de mes amis sont mes amis. C'est un peu ça. Si vous dites, et c'est ce que disaient Jean là, si vous dites que vous aimez Dieu, obligatoirement, vous devez aimer ce que Dieu aime. C'est lié. On ne peut pas dire « moi j'aime Dieu, mais par contre les autres, ils m'ouvrent. » C'est les revers d'une même médaille. Parce que Jean estime que c'est dans l'amour qu'on reçoit de Dieu qu'on peut puiser nos forces pour aimer les personnes à notre tour. C'est aussi Jésus qui donne, à mon sens, l'exemple le plus pur et le plus entier de ce qu'est l'amour, on en a parlé, un amour qui est totalement inconditionnel, qui ne dépend pas de si les gens s'intéressent à lui ou ne s'intéressent pas à lui, si les gens sont beaux, moches, petits, si les gens l'aiment ou l'aiment pas. Et un amour qui est prêt à se sacrifier, qui est prêt à faire passer l'autre avant lui, de manière ultime, puisque ça va jusqu'à la mort. Mais surtout, à mon avis, c'est que C'est Jésus qui nous donne la possibilité de nous aimer. Il nous donne la possibilité d'aimer comme lui, il a aimé à notre tour. Pas juste par système d'imitation, évidemment, quelqu'un qui va rencontrer l'amour de Dieu, quelqu'un qui va être convaincu que tout ça est vrai, aura fatalement envie de suivre l'exemple. Fatalement, c'est négatif. Aura forcément envie de suivre l'exemple de Jésus, comment Jésus a été avec les gens et tout. Mais c'est au-delà de ça. Il nous donne aussi les moyens d'aimer. L'envie d'aimer, sans vouloir... il a commencé à penser la chanson dans sa tête. L'envie d'aimer, le rêve d'aimer, on l'a tous. On a tous envie d'aimer le mieux possible. Mais l'énergie d'aimer, l'énergie de faire passer l'autre avant soi, la force d'aimer, ça par contre c'est autre chose. Et cette force d'aimer, cette énergie d'aimer, elle est donnée par Dieu dans le cadre de la relation qu'on a avec lui. Quand on comprend qui est Dieu, quand on décide d'accepter l'amour de Dieu et de vivre en relation avec lui, Dieu nous donne l'énergie pour réussir chaque matin, chaque début d'année, continuer à aimer la personne. Alors comment être heureux en amour, selon la Bible ? Ne pas faire peser sur l'autre, qu'il soit un conjoint, un ami ou un frère, ne pas faire peser sur l'autre notre volonté d'être aimé tout le temps, parfaitement et pour toujours. Il n'en est pas capable. Ne pas croire qu'on va pouvoir aimer quelqu'un tout le temps, parfaitement et pour toujours. On n'en est pas capable. Mais, quand même, pas tomber dans la dépression, mais, fondé dans l'amour qu'on reçoit de Dieu, on peut apprendre à pardonner comme Dieu nous pardonne. On peut apprendre à accepter les autres comme Dieu nous accepte. On peut apprendre à aimer des personnes imparfaites comme Dieu nous aime. Et on va espérer que la personne en face va faire la même chose. Va apprendre à pardonner comme elle sait que Dieu l'a pardonné, à accepter comme Dieu l'a accepté et à aimer, même si on est imparfait, comme Dieu l'a aimé alors qu'elle est imparfaite. Conclusion. Dans la dernière partie de Luc Ferry, là, La Révolution de l'amour, il utilise un procédé littéraire qui est très efficace. Il raconte l'épopée de Gilgamesh. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Gilgamesh, c'est une épopée mésopotamienne à peu près de la même époque que la Torah juive, où on suit ce Gilgamesh, ce prince mésopotamien, qui rencontre un ami, et donc c'est l'amour de sa vie, d'amitié virile. Attention, ça rigolait pas à l'époque, hein, on ne parle pas du tout d'homosexualité là. C'était pas du tout envisageable à cette époque-là. Mais voilà, et puis cet ami meurt. Et il est complètement brisé, il est en mille morceaux, et tout d'un coup, il a peur de la mort comme étant la chose qui arrache à l'amour. Et donc, il va faire une recherche auprès de tous les sages de son temps pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut passer par-dessus la mort et comment est-ce qu'on peut aimer pour toujours. Il ne trouvera pas vraiment de solution, il va se résigner en fait, à la fin de l'épopée il va se résigner. Mais ce que fait Luc Ferry, c'est qu'il continue à faire vivre Gilgamesh et il lui fait rencontrer tous les grands penseurs de l'histoire. De Hésiode, penseur grec à peu près de la même époque, jusqu'à Schopenhauer au XXe siècle. Et donc il lui fait rencontrer chaque penseur et à chaque fois Gilgamesh dit « Voilà, ben, moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour que l'amour aille au-delà de la mort et pour que l'amour soit vraiment éternel. » Et puis les gens lui répondent. Et Luc Ferry va tricher un peu, il va faire Hésiode, les stoïciens, les épicuriens, Bouddha, donc il va dans l'ordre chronologique, puis hop, il saute le premier siècle avec Jésus, il passe à Kant, il passe à Schopenhauer, puis il revient à Jésus à la fin. Il termine par le christianisme, en fait. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez la même chose, vous avez Gilgamesh qui propose son truc, donc Luc Ferry résume la pensée d'Épicure ou de Bouddha, etc., puis après, vous avez une évaluation par Gilgamesh, qui est en fait une évaluation par Luc Ferry, hein, vous aurez bien compris, il se cache derrière Gilgamesh, où en gros, à chaque fois, il n'est pas convaincu. À chaque fois, il n'est pas convaincu parce que finalement, ça ne répond pas à la vraie question. Les gens feintent, les gens répondent à côté, mais non, mais l'amour, finalement, la mort, c'est pas grave, la mort, ça fait partie de la vie, puis l'amour, c'est rien, pourquoi tu veux vivre, on peut vivre sans amour et tout machin. Donc à chaque fois, Luc Ferry, Gilgamesh termine en disant que ça ne va pas, c'est pas la bonne réponse, ça nous laisse carrément sur notre faim. Et puis, quand il fait rencontrer Christ à Gilgamesh, là, enfin, on voit Gilgamesh voir la lumière. C'est exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Ça répond à toutes ses aspirations. Ça donne une réponse cohérente et heureuse à toutes ses questions. Il y a un après, les gens qu'il aime, il va pouvoir les revoir après, il peut apprendre à aimer maintenant grâce à ce que Dieu lui donne, il peut avoir l'espoir d'avoir un après dans l'éternité grâce au sacrifice de Christ et tout machin. Donc là, on est super content, on se dit, tiens, ça y est, on arrive enfin à la fin. Sauf que finalement, Luc Ferry Guillemèche dit, ouais, mais non, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Et donc, il rejette simplement. Et il passe à sa dernière partie, qui est la thèse de Luc Ferry, où il explique en fait qu'il propose un christianisme sans Dieu, où finalement on trouve l'énergie en nous-mêmes d'aimer, parce que la grande réponse qu'il transforme, en fait il la reprend, elle la transforme en virant dur, mais la grande réponse, finalement, elle est trop belle pour être vraie. Ça touche, ça convainc. Et Luc Ferry, on l'a rencontré dans le cadre d'une conférence faite par le GBU, et il disait que s'il devait partir sur l'île déserte, il partirait avec le livre, la lettre justement que je vous lisais là de Jean. Ce serait le livre avec lequel il partirait sur l'île déserte. Ça le touche, ça le convainc, mais il ne peut pas accepter que c'est vrai, parce que c'est trop beau. Je trouve que ça pose beaucoup de questions, cette phrase, c'est trop beau pour être vrai. Et je vais terminer juste en vous laissant ces questions-là. Première question déjà, est-ce que la vérité est forcément moche ? Est-ce que parce que ça nous paraît cohérent, parce que ça nous paraît beau, on doit se dire, bah non, forcément, c'est faux. Deuxième chose, est-ce que l'idée d'un Dieu en colère, parce que je l'ignore, c'est une idée qui est si belle que ça, qui est si agréable que ça. Moi, je soupçonne Luc Ferry de virer une partie du message biblique, la partie moins agréable, plus dérangeante. Est-ce que finalement, un Dieu qui est en colère contre nous, c'est si beau que ça? Et troisième chose, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je trouve ça dommage que Luc Ferry Guillemèche ait évacué le truc en se disant juste finalement c'est trop beau pour être vrai, en essayant de réfléchir un peu plus loin, savoir est-ce que c'est vrai, quelle autre question on peut avoir. Je vous encourage à réfléchir à ça, si vous n'êtes pas convaincu que c'est vrai, je vous encourage à vous poser cette question, est-ce que c'est vrai? Et à mon avis, pour réfléchir à la véracité du propos, il n'y a rien de plus efficace que de se confronter directement au propos. Il y a des chrétiens ici dans cette salle, donc si vous voulez parler avec eux, ils auront des trucs à vous dire sur le sujet. Mais moi, je vous encourage à vous confronter directement aux propos, comme ça vous pourrez faire votre opinion vous-même, et pas l'opinion qui est passée à travers le cerveau de quelqu'un d'autre. Et pour ça, on vous encourage à lire la Bible. Et comme la Bible, c'est gros, il y a beaucoup de choses à lire, et que j'imagine que vous avez d'autres choses à lire dans votre vie, on vous propose une version plus courte, qui n'est pas du tout un résumé de la Bible, mais qui est en fait un extrait. On a extrait les deux livres du Nouveau Testament qui racontent les débuts du christianisme. Donc un livre, l'évangile de Luc, qui raconte tout ce qu'a fait Jésus. On le voit être avec des gens, on le voit comment il est avec des gens qui sont différents de lui, on voit comment il agit avec eux. Puis après, un livre où on raconte comment vivaient les premiers chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment est-ce qu'ils ont expliqué? Comment est-ce qu'ils ont compris ce qu'avait fait Jésus, etc. Si vous ne l'avez pas déjà, on vous l'offre. Si vous l'avez déjà, on vous encourage vraiment à lire et à vous faire votre propre opinion. C'est important de savoir en quoi on croit ou en quoi on ne croit pas, et pourquoi on croit et pourquoi on ne croit pas. Il y en aura disponible, je crois, à la sortie, mais Laetitia vous redira tout à l'heure. Moi, j'ai fini de parler. J'ai parlé beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu, mais je vois qu'on ne me fait pas les gros yeux, donc c'est que ça va. Donc voilà, maintenant, peut-être on va une première partie, s'il y a des gens qui ont des questions. Parce que je suis passée vite sur des trucs, parce que des choses me sont parues bizarres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne promets pas que j'aurai des réponses, mais je vais essayer. Des remarques? Alors, si c'est pas des questions. Oui. Parle fort.
Je suis un peu gêné de poser cette question. Il m'en fait un aspect, si je veux dire, celui de la sexualité. Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est bien? Comment ça peut...
Ce n'est pas sale! Moi, je suis de la génération Skyrock avec Doc et Dufoul. Enfin, vous êtes trop jeunes pour connaître ça. Mais le mec, il répétait tous les soirs à des ados qui appelaient « Est-ce que c'est sale? Ce n'est pas sale !» Alors, je vais répondre ce que la Bible pense je suis d'accord avec la Bible, Dieu a tout créé. La sexualité est coupée. Et s'il l'a mis, c'est parce qu'il pense que c'est une bonne chose. Et contrairement à ce que la tradition chrétienne a dit pendant des années, ce n'est pas une bonne chose juste parce que ça fait des enfants. C'est une bonne chose parce que c'est une bonne chose. C'est une évidence que Dieu a voulu la sexualité pour la sexualité. Et à mon avis, la raison principale, lui, il commence à flipper parce qu'il sait que c'est toujours mon argument, mais l'argument principal pour dire que Dieu a voulu la sexualité pour le plaisir et pas seulement pour les enfants, c'est le clitoris. Non, mais voilà, le clitoris ne sert à rien pour faire des enfants, et pourtant Dieu l'a créé. À mon avis, c'est la preuve ultime que le sexe s'est fait pour le plaisir. Sinon, il se serait épargné le clitoris qui ne sert strictement à rien pour la reproduction. Moi, je crois que Dieu a créé le corps humain, et je crois qu'il a créé la sexualité pour le plaisir. Donc, non, ce n'est pas ça. Donc, non, la sexualité, ce n'est pas sale. Maintenant, la Bible estime que pour que la sexualité soit vécue pleinement, émotionnellement, d'une manière stable, il faut que justement ce soit dans le cadre d'une relation qui s'engage. Il faut que ce soit dans le cadre du « je t'aime » et « je t'aimerai demain, après-demain, après-après-demain », etc. D'une relation où la parole soit donnée et pas juste « oh zut, on est tombé l'un sur l'autre à la sortie du métro, oups, pardon, et puis demain on se rappelle pas quoi ». Que ça, c'est de la sexualité qui construit pas l'individu. Et donc ça fait pas partie de ce projet de couple et d'amour pour lequel Dieu nous a créé. Ce n'est pas sale, mais il y a un cadre. Mais c'est pas sale non plus quand c'est hors du cadre. C'est jamais sale. Mais il y a un cadre dans lequel c'est vécu de manière plus saine.
Ouais. Alors, t'en as parlé un peu, mais pourquoi on pourrait pas... j'arrive pas à formuler la phrase.
Tente, vas-y.
Vivre l'amour juste par notre propre volonté, comme dit Luc Ferry, ou comme dit d'autres auteurs, comme Alexandre Jardin, etc., de vouloir décider chaque jour d'aimer. Ouais. Et pourquoi la Bible fait une différence avec cette philosophie-là?
En fait, la Bible ne fait pas de différence. La Bible dit juste que si on se repose sur nos propres forces, ça ne va pas durer longtemps. Mais c'est bien ce que la Bible nous encourage à faire, à décider chaque matin de continuer à aimer. Et moi, je crois que c'est possible. Je crois carrément que c'est possible. Mais ça demande une énergie folle. Ça demande une énergie folle, vraiment. Et Luc Ferry, il dit ça, mais il en est à sa cinquième femme, là. Donc si tu veux, en théorie, il a trouvé le truc. En pratique, il reconnaît lui-même, il le dit, il est hyper franc, ce mec, j'aime beaucoup. Il dit lui-même qu'en fait, même quand il est amoureux d'une femme, il se préfère quand même. Et que fatalement, il y a un moment donné où ce sera plus compliqué. Je ne sais pas combien de femmes a Alexandre Jardin, s'il est avec la même depuis 30 ans.
C'est des utopies qu'il raconte.
Oui, c'est ça. Donc moi, je crois vraiment que c'est, enfin, moi, je crois vraiment que c'est possible, j'y crois. Il me semble juste que ça demande énormément d'énergie. À mon avis, ça demande une énergie miraculeuse. Vraiment une énergie miraculeuse. Et moi, je pense que Dieu peut donner cette énergie miraculeuse. Mais il y a des gens qui y arrivent sans Dieu. Et c'est cool, mais c'est fatigant. C'est fatigant.
Ouais. Pourquoi ça doit être fatigant? Il y a des couples qui ne sont pas chrétiens, qui vivent très longtemps et qui vivent, pas dire le parfait amour, mais qui...
Non.
Non, parce qu'il y a...
Mais les chrétiens non plus, hein. Tu me dirais, il y a des couples chrétiens, je dirais non. Non, je veux dire, sauf si vous avez autour de vous des couples qui vous mentent, ouais. Les vrais couples qui vous mentiront pas diront qu'il y a toujours une période où en fait c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on va se séparer, ça ne veut pas dire qu'on va se divorcer, ça ne veut pas dire qu'on va... Mais il y a des moments où, franchement, la personne, tu n'as pas envie de la voir. Elle est tout le temps là, tu n'as pas envie d'être tout le temps là, tu as envie de partir, tu as envie d'être seule. Et les couples qui vous disent que ça n'a jamais arrivé, ils vous mentent. C'est tout. Mais à mon avis, les gens ne mentent pas. C'est juste que tu n'as pas assez parlé avec eux et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de te raconter leurs difficultés. Mais tous les couples passent par des moments où... bon, déjà, le couple, la passion descend, ça c'est... voilà. Mais même quand c'est relayé par cette complicité, affection, tendresse, que moi je trouve carrément géniale, il y a forcément des moments où, en fait, l'autre te gave. Mais c'est normal, hein. Je veux dire, c'est normal. Enfin, il y a forcément des moments où la personne... en gros, les gens disent qu'il y a une crise... 3 ans, 7 ans, 14 ans, enfin souvent les observateurs disent ça. Si vous demandez aux couples qui sont mariés depuis plusieurs années, demandez-leur le rythme auquel ça a été plus compliqué, vous allez avoir ces chiffres qui ressortent. Parce que être tout le temps avec une personne, vivre avec elle, ça demande un effort permanent sur soi pour que ça marche. Quand on vit seul, je veux dire, on fait un peu ce qu'on veut, on bouffe ce qu'on veut, mais quand tout d'un coup tu es avec quelqu'un d'autre, T'as deux personnes différentes qui fonctionnent de façon différente et il faut, si tu veux que ça marche, si tu veux pas être tout le temps en train de te gaver, t'es tout le temps en train de faire des compromis. Et faire des compromis, c'est compliqué. C'est pas impossible, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est impossible. Il y a plein de couples qui y arrivent, mais ça demande énormément d'énergie. C'est pour ça qu'il faut qu'on en soit conscient et qu'on rentre dans la relation en sachant que ça va être un travail de tous les jours. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que sans l'aide de Dieu, c'est coton.
C'est juste par rapport à ce que je me disais depuis le début, du coup, je ne sais pas à quoi réfère la question, mais est-ce que c'est vrai?
C'est cette histoire de Luc Ferry qui dit le christianisme, c'est trop beau pour être vrai. Donc c'est vraiment le christianisme, est-ce que c'est vrai? Finalement, est-ce que le fait que ce soit beau, on pourrait parler sur le fait est-ce que c'est si beau que ça, mais le fait que ce soit beau, en tout cas, que ça propose une réponse qui est très agréable, hein, la réponse du pardon, la réponse de l'amour qui dure éternellement, du fait qu'on va revoir les gens qu'on aime dans l'éternité, etc. Est-ce que ça discrédite le christianisme? Le fait que ce soit tellement beau, est-ce que ça discrédite le christianisme? Luc Ferry répond oui, moi je réponds non, et vous répondez zéro, ce que vous voulez. Enfin, on peut y réfléchir, quoi, on peut en discuter. Ouais.
C'est quoi l'aide de Dieu?
L'aide de Dieu?
Est-ce que c'est psychologique ou c'est juste...
Alors,
c'est dire, non, ouais, c'est il y a Dieu, donc forcément...
Ouais, non, c'est pas psychologique. Ce que la Bible dit, hein, on rentre dans de la haute théologie, hein, j'espère que vous êtes approchés, mais ce que la Bible dit, que c'est que quand un individu accepte librement, attention, hein, librement, d'entrer en relation avec Dieu, Dieu lui donne son esprit. Dieu lui donne une partie de lui c'est une sorte de relation, quoi. Quand Dieu est en relation avec quelqu'un, il se donne à lui et il donne son esprit. Ça veut dire que les vrais chrétiens, ceux qui sont en relation avec Dieu, ont un agent actif à l'intérieur d'eux qui les aide à passer par-dessus. Donc non, c'est pas psychologique. Il y a un aspect psychologique d'imitation où en gros on est un peu transcendé par le modèle et du coup on a envie de suivre, mais il y a quelque chose de plus que ça. C'est ce que la Bible appelle le Saint-Esprit, qui est donné aux croyants pour justement être cette énergie qui vient directement de Dieu et qui nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on était sans lui. Ouais.
J'allais juste rajouter à ta réponse que la Bible aussi nous invite aussi à nous donner à Dieu parce que la Bible dit offrir notre corps en sacrifice.
Ouais, tout à fait.
Donc en fait, ça montre aussi une autre dimension de l'amour, enfin, qu'on voit que Dieu se donne à travers son esprit, mais nous aussi, nous devons répondre à cet amour.
Ouais. Mais c'est en réponse. C'est fort que Jean dit, voici en quoi consiste l'amour. C'est pas que nous, on a aimé Dieu, c'est que lui nous aime. Et c'est vraiment l'idée de savoir quelqu'un t'aime, quelqu'un t'offre un truc gratuit. Et donc, soit tu dis, non, merci. Soit tu dis, écoute, je viens y réfléchir. Soit tu dis, oui. Et dans ce cas, fatalement, dans toute relation, hein, ça marche. C'est Dieu, il c'est lui qui a inventé les relations humaines, hein, donc il est en relation avec nous sur le même modèle que les relations humaines. Fatalement, quand il y a un truc qui est donné, il y a une réponse qui est faite. Et on voit bien qu'on est plus enclin à aimer les gens qui nous aiment. C'est juste une évidence. A priori, les gens qui nous détestent, sauf si on est sadomaso, mais là, c'est une autre question. Les gens qui nous détestent, a priori, on n'a pas très envie de les aimer. Mais les gens qui nous aiment, les gens qui sont gentils avec nous, les gens qui nous font passer avant eux, qui nous montrent qu'on a de la valeur et tout, de manière évidente, on a envie de les aimer. C'est la même chose avec Dieu. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête. Non, pas spécialement. Joyce ne dit rien. Donc, je sais pas, j'avais compris que c'était 21h à la fin. Mais de toute façon, il va y avoir à boire et à manger. Donc voilà, moi je suis toujours, je reste là, quoi, je vais pas fuir. Donc s'il y a d'autres questions, vous pouvez me les poser, vous pouvez les poser à la personne qui vous a invité ici, ou voilà. Et à la sortie, vous avez des I Love LA. Je vous encourage à les prendre et à les lire et à venir après nous dire « il a écrit ça, je suis pas du tout d'accord » et qu'on en discute. Ouais, voilà. Thank you.